Hélène Sandrenier, donc, pour cette troisième partie, nous continuons à faire, non pas le tour exhaustif, mais de parcourir certaines de vos actions essentielles pour, justement, encourager la vie de, sous tous ses aspects au niveau au droit. Et, par exemple, le SIADEN. Alors, le SIADEN, c'est le syndicat au droit du numérique et de l'électricité ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est,
bon, le département, évidemment, le conseil départemental aide, contribue à un financement. Il s'agit, alors, d'installer des lignes électriques, mais surtout aujourd'hui, du numérique et du très haut débit.
Oui.
Pouvez-vous nous expliquer cette action?
Ben, disons que, comme vous l'indiquez, effectivement, à l'origine, il y avait un syndicat, en fait, c'est le syndicat au doigt, hein,
oui.
À partir d'un organisme qui était d'abord départemental et puis après, bon, qui a pris une autonomie et qui aujourd'hui donc est devenu notamment, effectivement, le syndicat qui installe dans l'Aude le très haut débit. Alors que les grandes villes, elles, sont équipées par les opérateurs classiques. Donc, en fait, il y a eu une volonté, effectivement, du conseil départemental au départ, et puis après, évidemment, avec la mise en œuvre du SIADEN, de permettre cet équipement dont on voit aujourd'hui, avec la crise que nous avons vécue, combien un département qui n'a pas accès à la fibre est un département aujourd'hui qui peut être effectivement en très grande difficulté. Hein. Nous avons vu la fibre, ce que ça représentait pendant la crise Covid. Être connecté, c'est rester en contact avec le monde, quoi. Et c'est aussi parfois l'accès à des services. Hein. Je pense par exemple à la santé. Donc en fait, il y avait eu une première grande volonté politique portée par le SIADEN sur un premier équipement, un premier plan, un plan qui était d'une hauteur, une phase 1, qui était d'une hauteur de 135 millions et pour lequel le département avait participé à hauteur de 25 millions avec d'autres collectivités et aussi, bien sûr, l'État. Et puis là, on va s'engager dans un autre plan,
une autre phase.
La phase 2 qui, normalement, devrait nous permettre de terminer. Hein. C'est les 10% les plus difficiles, parce que les plus éloignés,
difficiles à accéder,
à équiper,
finalement.
Tout à fait, parce que les territoires les plus éloignés, et dans les territoires également, c'est à ce moment-là que la prise, comme on dit, coûte le plus cher. Parce que, en fait, vous n'avez pas une ville avec 40 000 habitants dans un périmètre très restreint.
On n'est plus dans la rentabilité.
Et ça, quand même.
On est dans le service public.
Exactement, c'est à ça que je veux en venir. Il faut quand même entendre hein, que s'il n'y a pas cette volonté, effectivement, politique publique d'équipement, hein, eh bien, il y a des territoires qui sont privés d'accès au monde, quoi.
Oui, ça, c'est ce qu'on appelait jadis l'aménagement du territoire.
Et c'est ça.
Et ça repose sur le constat, apparemment, que les opérateurs classiques s'occupent des grandes villes, mais pas du rural.
Oui. Alors, vous m'avez dit qu'il fallait pas. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, ben, on va plutôt vers ceux qui rapportent.
Oui, bien sûr, la rentabilité
voilà.
dans
voilà.
tous les domaines, pas seulement
voilà.
celui-ci.
Nous, le service public, effectivement, c'est pour les collectivités et on n'est pas dans une recherche de profit.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à terme, toute l'Aude,
oui.
y compris des petits villages de quelques dizaines d'habitants, vont être équipés
voilà.
par une technologie ou par une autre,
c'est ça.
Seront connectés sur très haut débit.
C'est ça, c'est la volonté. Et donc, on est là, le deuxième plan, 93 millions, et nous, on ira en soutien pour 12 millions. Vous voyez, ce sont de très gros budgets, hein, mais bon, on ne peut pas envisager un développement et un maintien de la vie dans la ruralité, si on ne peut pas accéder à Internet. Donc la question ne se pose même pas pour nous.
Oui, voilà. Donc la ruralité ne peut pas être laissée pour compte.
Ben non, c'est pas notre projet, hein. C'est pas notre volonté politique, hein. C'est pas celle-là.
Hein. Alors, Madame la présidente donc du département, je reviens là-dessus, vous aidez également, ou plus exactement, vous avez signé récemment, je prends un cas très précis, une convention avec RTE, c'est-à-dire Réseau Transport Électrique, c'est une filiale d'EDF dont la tâche est d'équiper en ligne électrique le territoire. Vous avez signé une convention pour... Alors expliquez-nous... Comment? Parce qu'on ne saisit peut-être pas toujours quel est votre rôle.
C'est un lien avec un sujet qu'on a précédemment évoqué, qui est effectivement comment on met en place des dispositifs pour permettre l'insertion des personnes qui sont notamment privées d'emploi. J'évoquais tout à l'heure le fameux cumul RSA-activité, en disant les branches que nous avions sollicitées. Et je rappelais que récemment, et donc c'est un lien avec effectivement réseau RTE, puisque nous avons signé une convention avec le BTP,
bâtiment travaux publics.
Voilà, bâtiment travaux publics, qui va travailler pour des projets de RTE, et donc nous avons signé une convention BTP, RTE et le groupement d'employeurs du BTP pour permettre à des personnes que nous suivons dans le cadre de nos dispositifs de pouvoir aller travailler sur ces chantiers. Et nous activons également un autre dispositif qui est celui de ce qu'on appelle des clauses d'insertion, c'est-à-dire que nous, quand nous passons des contrats, nous demandons que une partie des recrutements aille vers les personnes que nous avons en insertion.
Voilà,
vous
donc
voyez,
c'est ce rôle d'insertion que vous ne voulez pas risquer de perdre.
C'est ça.
Si on devait recentraliser.
Oui. Que plutôt que de risquer de perdre, de ne plus pouvoir bien faire.
Oui, c'est ça.
Vous voyez, c'est.
Il y a une nuance, mais de poids quand même.
De poids. Voilà notre lien, ce qui justifie la convention que nous avons signée.
Alors, Madame Sandrani, vous êtes, je le disais au début, vous êtes élue non pas pour 6 ans, mais pour 7 ans. On va revenir sur ce que ça peut signifier. Mais d'abord, un petit mot d'explication, puisque normalement, vous êtes élue en 2021 pour 6 ans. Ça donne 2027. Or, il se trouve qu'en 2027, on sera comme maintenant en élection présidentielle.
Voilà.
Et que dans le système français,
la Constitution ne le permet
pas. L'urgence passe sur la présidentielle. Ce qui fait qu'on prolonge d'un an votre mandat, celui du département et de la région également.
Voilà.
Alors le fait d'avoir une année de plus devant vous, parce que souvent les élus se plaignent, disent « bon, l'administration nous ralentit, le temps est long, on a besoin d'années et d'années pour arriver à faire les choses », est-ce que cette année supplémentaire vous semble apporter un confort ?
Ben, moi, j'ai envie de vous dire que plus on a de temps pour pouvoir agir, quand on est un homme ou une femme politique, plus, entre guillemets, on en est content. Hein. Moi, cette année supplémentaire, c'est une année de plus pour mener nos projets, quoi.
Oui,
je le vis comme ça. C'est un concours de circonstances. Effectivement,
Mais c'est bénéfique, en fait.
Ah oui, je le vis positivement. Enfin, bon, après, vous me le demandez à moi. Moi, je le vis positivement parce que je me dis que, effectivement, ben, on va pouvoir aller plus loin dans ses actions et dans ses projets. Mmh. Voilà, donc. Pas de souci particulier au travers. C'est vrai que c'est assez original.
Oui,
c'est
comme ça, c'est un hasard.
Mais c'est comme ça.
C'est un heureux hasard.
Pour moi, c'est un heureux hasard.
Parfait. Bon.
Voilà.
Et alors, les départements, on sait qu'il y a eu pas mal de réformes dans l'administration française récemment. À un moment, il avait été envisagé de supprimer les départements, de renforcer les régions. Tout ça semble être au repos pour le moment.
Pas vraiment.
Quelle est votre position là-dessus?
Ah ben moi, vous savez, je...
Vous défendez le département, forcément.
De là où je suis... Bon, mais je ne le défends pas pour le défendre. Enfin, je crois qu'on sort d'une crise sanitaire, notamment, où toutes les collectivités, à leur niveau, chacune a montré son utilité. Tout à l'heure, vous disiez combien il est important que ça se passe au niveau local.
Bah oui, le département reste un niveau.
Le département reste un niveau local. Il y a des projets qui ne peuvent être menés qu'à ce niveau. Il y a une réactivité des collectivités qui doit être prise en compte. Regardez tout ce qui a été fait pour cette crise. Et c'est vrai que si il n'avait été question que de l'État, c'eût été un peu juste, hein, si des maires, des présidents d'Interco avaient pas pris, et des présidents de conseils départementaux et de régions, naturellement, n'avaient pas pris la main sur certaines mesures, eh bien, l'État n'y aurait pas suffi. Oui. Donc, il faut pas se tromper, quoi. Hein.
Mais en fait, on semble avoir redécouvert la palissade, que quand on est proche,
on est plus efficace. Et oui, mais les tentations sont grandes, hein, d'une recentralisation.
Oui. Bah ça, c'est un petit peu le démon de français. À propos des départements, c'est amusant de revenir à l'origine territoriale des départements. C'était une journée de cheval.
Tout à fait.
De la préfecture.
Tout à fait. Il fallait pouvoir faire ça dans une journée.
Voilà. Aujourd'hui, on va beaucoup plus vite, mais cette proximité reste fondamentale.
C'est ce qui a fondé la création de ces collectivités. Donc, je pense que ça se justifie. Et puis, de toute façon, les événements le montrent, quoi. Les événements le montrent. Alors après, ça passe, bien évidemment, parce que souvent, c'est l'argument du millefeuille. Mais cet argument du millefeuille, honnêtement, moi, je ne le trouve pas réellement fondé. Enfin, je disais tout à l'heure, vous parliez de l'économie. Bon, nous, la loi NOTRe, elle est claire. Hein. Elle dit les départements, c'est les solidarités humaines et territoriales, essentiellement. Parce que, bon, quand même, j'ai évoqué certains sujets, il y en a d'autres dont je n'ai pas parlé. On soutient l'agriculture, on va mettre en œuvre un PAT prochainement, un plan alimentaire territorial. On soutient la politique de l'eau. Enfin, c'est quasiment 5 millions que nous mettons par année ou sur les dispositifs hydrauliques ou par exemple la protection des inondations, en fait tout ça on l'oublie, quoi, la culture, le sport, en fait bon,
mais tout ça c'est de l'encouragement finalement fondamentalement à l'économie, à la vie
économique.
Mais tout
à fait, c'est pour ça que officiellement et juridiquement on n'y est pas, mais quand j'annonce un budget d'investissement qui est pas loin, qui est à plus de 100 millions, l'investissement c'est de l'argent directement injecté dans l'économie locale.
Voilà. Hein.
Donc, y est, quoi.
Et ça, c'est pas de la théorie, c'est de la réalité.
Ça, c'est pas de la théorie.
C'est là-dessus qu'on conclut. Merci donc, Hélène Sandranier, présidente du conseil départemental de l'Aude. J'ai failli dire conseil général. Enfin, bon. Ça ne vous échappe pas, des fois, encore, cette ancienne nomenclature?
Non, parce qu'en fait, moi, je suis de la génération je suis devenue élue au conseil départemental. Après la réforme des conseils départementaux.
Bon,
donc, dans mon vocabulaire, je n'emploie que ce mot. Mais je l'entends par ailleurs quand je me promène dans le département.
Voilà, j'imagine. Ce lapsus-là, c'est pas pour vous, il reste pour les autres.
Oui, c'est pas grave.
Merci en tout cas. La prochaine invitée sera d'ailleurs une collègue à vous, Madame Sandranier. Ça sera Chloé Danillon, qui est conseillère départementale, qui est vice-présidente chargée notamment de la protection de l'enfance. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas trop abordé ce sujet-là, mais on l'abordera très prochainement.
C'est un axe majeur de nos politiques.
Voilà, et elle est élue sur le canton qui s'appelle, je crois, Montagne Noire et Malepère.
Malepère, c'est ça.
Voilà. Eh bien, merci en tout cas à vous d'être venus. Et puis, on se retrouvera régulièrement, comme on le fait à Radio Barque, puisque quand même, quand on gère un département, on vient de le voir, les choses sont rapides et ça s'enchaîne. Et on a absolument besoin que vous reveniez à ce micro.
Oui.
Merci à vous et merci aux auditeurs de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.
Merci à vous et à vous tous. Merci.